maintenant passer la parole à Maude Prudhomme, qui est la coordonnatrice du Réseau québécois des groupes écologistes.
Bonjour. Moi, mon propos va plus porter sur une espèce de portrait des prises de décision environnementale, puis ensuite de la réalité des groupes, de qui sont les fameux mouvements environnementaux dont on parle et dont on cite les porte-paroles nous-mêmes. Alors voilà. Je voulais commencer en parlant un peu des lieux de pouvoir, des différents lieux de pouvoir, parce que bien qu'on consulte, vous allez voir. Le premier lieu de pouvoir des prises de décision qui concernent les ressources naturelles ou le paysage naturel dans lequel on s'insère, c'est évidemment le pouvoir capitaliste et financier. C'est les premiers décideurs de ce qui va se passer dans la game, c'est les gros joueurs. Et en fait, ils ont beaucoup de joueurs, eux autres, dans la game, bien plus que nous. Et ça, c'est le gros méga pouvoir. Ensuite, il y a la politique officielle. Ça n'en est pas très loin quand même. On a vu des portes tournantes se virer ces derniers temps d'ailleurs. C'est pas la même équipe, mais on sent qu'ils ont des intérêts communs. Hein? Ils se corrent les mêmes, on dirait. Ensuite, on passe. Puis dans la politique officielle, je savais pas trop où inclure les représentants officiels des Premières Nations, parce qu'ils n'ont définitivement pas le même poids décisionnel, mais c'est bel et bien les représentants politiques officiels. Ensuite, on tombe aussi aux forces de travail et des syndicats, qui ont quand même un impact économique majeur, et aussi de leurs bras financiers, puisque depuis quelques années, il y a aussi tous les fonds d'investissement qui sont liés aux syndicats, qui ont définitivement un poids économique majeur. C'est donc aussi des joueurs, on ne sait pas trop dans quelle équipe, des fois. C'est un petit clin d'œil, là. Ben ouais. ensuite, il y a les espaces médiatiques qui, eux aussi, semblent jouer dans plusieurs équipes à la fois, mais pas toutes. Ils sont liés aux enjeux financiers dont on a déjà fait mention, mais c'est quand même un espace qu'on se dispute. Des fois, on essaie de recruter des joueurs dans cette équipe, on ne sait plus trop. Mais c'est des joueurs définitivement puissants. Donc, quand on en recrute un dans son équipe, on est content. Voilà. Ensuite, il y a eu l'émergence des lieux de concertation qui ne sont pas nécessairement des joueurs en soi. On dirait que c'est d'autres games, c'est des pré-games. Je ne sais pas si c'est c'est ce qui établit après ça les hiérarchies de décision, mais ça s'est mis à pulluler au fil des derniers temps. Et les lieux de concertation sont devenus des acteurs en soi. Ce qui laisse assez perplexe une analyse politique de la chose. Mais bref, les lieux de concertation sont devenus eux-mêmes des lieux d'influence politique avec leur dosage particulier déterminé par les joueurs précédents des autres équipes. Ensuite, on tombe dans les mouvements écologistes, environnementalistes, conservationnistes et toute cette diversité qu'on va ensuite aborder. Donc, c'est pour vous dire que quand on parle d'environnement et qu'on consulte les experts ou les représentants du mouvement environnemental, c'est pas comme si on consultait ceux qui prennent l'ensemble des décisions. C'est ce que je voulais situer par ce propos. Je voulais situer aussi rapidement le rôle historique de l'État, parce qu'on semble avoir beaucoup d'attentes envers l'État. Puis dans ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, c'est important de faire quelques précisions. Historiquement, le rôle de l'État, c'est un rôle de dépositaire et de gestionnaire des ressources naturelles. Les premiers rôles de l'État québécois, de l'État canadien, ça a été de faire en sorte de faciliter l'exploitation des ressources naturelles par des compagnies comme la Bédisson. Son rôle historique n'était pas de protéger les forêts. Son rôle historique était de la faire couper efficacement. C'est juste pour situer. C'est aussi un rôle de promoteur. Outre le fait d'être dépositaire, il est aussi promoteur. C'est sacrément pratique. Que voulez-vous? Nouvellement, les forces de haute lutte, on lui a forcé à jouer le rôle de protecteur. Mais c'est pas son rôle spontané. Il y a des lois qui ont été gagnées à force de lutte sur le développement durable. Il y a le droit à un environnement sain qui demeure assez flou et dont on parle très peu. Tous ces instruments-là ont été gagnés de haute lutte parce qu'ils constituaient apparemment pas le but premier de cette équipe. Alors voilà. On a parlé tout à l'heure des portes tournantes. Il y a aussi cette histoire-là, là, dans le rôle de l'État. Il y a le rôle de l'État, mais qui constitue l'État en termes des joueurs dans le cadre des ressources naturelles? On change de chandail assez vite. C'est ce qui était du rôle de l'État. C'est une nuance que je voulais mettre en place. Ensuite, j'arriverai aux différentes tendances des mouvements environnementaux. Je vais situer un premier que j'appelle des catégories là, que Il y a certaines littératures qui vont corroborer ce qu'elle dit, il y en a d'autres qui vont dire autre chose, mais pour les fins d'exercice, c'est important de vous donner à tout le moins des grilles d'analyse. Donc, je vous les soumets, on peut jouer avec, je les lance sur la table. La première que je lance, c'est la peinture verte. La peinture verte constitue à prendre quelque chose de moche et d'absolument pas vendable, mais comme tout le monde fait du développement durable et que personne ne veut dire « moi, je fais du développement non durable », eh bien, la peinture en verre. Exemple, du lentille 2. On fait quelque chose de pas durable, mais nécessairement, on fait des déchets radioactifs. Peinturons-le de verre et trouvons quelques mots, un peu de vocabulaire, et voilà. C'est fait. La peinture verte tend à écailler assez vite. On tombe ensuite dans le capitalisme vert. Là, il y a une certaine nuance, parce qu'on veut insérer les mécanismes naturels dans la logique de marché. Exemple, le marché du carbone, où on va inclure, on voit l'internalisation des coûts. C'est un peu ce principe. Il y a ce principe-là. Il y a aussi l'espèce de bulle technologique verte, où c'est comme la prochaine bulle, là, il y a eu le web, puis là, c'est l'économie verte, puis Obama, etc. Vous savez de quoi je parle. Ensuite, on tombe dans l'environnementalisme, développement durabilisme, cette famille. Ce que moi j'appelle une idéologie du moins pire. Il n'y a définitivement pas de remise en question systémique dans les discours classiques. Ben, ce n'est pas classique parce qu'à l'origine, il y a 12 000 définitions de développement durable, mais dans ce qui s'incarne réellement dans les discours de développement durable les plus présents, il n'y a pas de remise en question comme telle du système économique, par exemple. Par idéologie du moins pire, ça veut dire une espèce de télescopie de c'est moins pire, donc c'est mieux. C'est mieux, donc c'est bien. C'est moins pire, donc c'est bien. Vous voyez le truc? Ce qui, des fois, est quand même pratique parce que c'est une approche qui a au moins la qualité, à court terme, de changer la réalité concrète, parfois. Par exemple, moi, j'ai grandi dans un parc industriel qui était très contaminé et qui sentait très mauvais. Un jour, ils ont installé des filtres au bout des usines, au bout des cheminées, et l'air a senti beaucoup meilleur. Il paraît qu'on avait moins d'arsenic dans les cheveux, selon les études. J'en étais ravie. Comme enfant, j'étais ravie. Ça a changé ma vie. Ça a surtout pas changé le fait que c'était une usine de munitions. Mais elle pollue moins. Hein? Parlant de munitions, dans la même logique de développement durable, il se développe aussi tout un discours de développement durable dans l'industrie militaire. On fait maintenant des grenades sans plomb. Ben, c'est moins pire que des grenades avec plomb. Fait que c'est mieux. Fait que c'est bien. Ouais, le truc. Alors voilà. Ça a aussi souvent une tendance à être très individualisant comme discours. La responsabilité est rejetée sur les individus d'encourager les bonnes compagnies ou de ci ou de ça, mais le fait que ce soit pas une analyse systémique fait en sorte que c'est vraiment le poids du monde repose sur les individus qui capotent, allument la télé, oublient ça. Ou vont s'acheter une coupe de coffin, plus durable, une brosse à dents qu'on peut changer la tête. Mais des fois, il y a quand même des produits qui sont bel et bien, en termes d'empreinte écologique, moins pires que ce qu'il y avait. C'est mieux, c'est bien, c'est bien. Je suis contente, puis mon métabolisme, c'est bien. Mais, c'est ça, il n'y a pas de remise en question systémique et d'éléments clés. On tombe ensuite dans l'écologisme. L'écologisme a lui-même son spectre politique. Ce qui caractérise les perspectives écologistes, c'est qu'il y a bel et bien une remise en question systémique. Ceci dit, une remise en question systémique ne signifie pas qu'on est à gauche. Il ne faut pas confondre. C'est très, très, très important de ne pas confondre. Même le vert le plus radical peut être à droite. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a historiquement un spectre politique. L'écologie sociale de droite va privilégier la survie des élites. Il va avoir aussi même un discours genre de néo-darwinien, machin, de survival of the fittest, que les plus meilleurs survivront puis que les autres étaient juste trop nuls. Puis dans un contexte où il y avait les biens, une urgence, que si jamais on veut que les gens survivent, il faut s'y mettre, il faut changer les choses. Là, du coup, il faut quand même un écho auprès des élites, puis elles veulent survivre, puis les autres s'en foutaient, ils s'en foutent encore. Ça continue. C'est un discours qu'il faut quand même un écho considérable là, dans les gros think tanks de droite. Eux, ils veulent survivre, ils ont peur, ils sont conscients qu'il y a une crise écologique, ils sont conscients qu'il va falloir qu'ils laissent ça leurs arrières, qu'il va falloir que leur forteresse soit bien gardée. Ils ont intérêt à ce qu'à avoir des mégapolices privées, ils sont en train d'installer leur complexe militaro-industriel pour protéger leurs arrières. Puis ils font des tables de pôle solaire, puis des affaires de même. Il y a tout un marché du produit de luxe écolo pour soutenir aussi la conscience environnementale des milliardaires de ce monde. C'est beau. Mais il y a ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire les mouvements d'écologie sociale de gauche. Puis là aussi, il y a un spectre, je fais ça un peu binaire, là. Il y a des nuances, mais dans l'écologie sociale de gauche. Donc, il y a toute une littérature, les mouvements de l'Institut d'écologie sociale, il y a l'écologie plus profonde, machin, mais il y a des innovations sociales qui ont pris place à l'échelle là, très expérimentale, mais quand même qui ont démontré là, une capacité de fournir un autre modèle de société à une échelle surprévue, mais quand même intéressante. Des perspectives beaucoup plus solidaires aussi, de outre le fait de se sortir soi-même, d'être capable de survivre à l'échelle de notre communauté, mais solidaires aussi des autres communautés, des initiatives. Je vais faire l'impression, mais comme il ne reste pas beaucoup de temps, on en discutera plus tard. Ça, on va le faire ensemble. On fait une exploratoire de projets de société. Je vais parler des autres caractéristiques des mouvements qu'on a fait, des espèces de grandes catégories. Ceci dit, qui caractérise ce grand monde, c'est aussi une hybridité surprenante. Les groupes peuvent à la fois avoir des positions très développement durabiliste et d'autres d'écologie sociale, ou d'autres qui sont à gauche ou qui sont à droite. Il y a comme pas eu encore une polarisation qui aurait clarifié les choses. Il y a donc beaucoup de groupes environnementaux qui regroupent tout un gradient de postures politiques. C'est pour ça que la grille d'analyse, elle est utile pour démêler les choses, mais à l'intérieur même du mouvement environnemental, c'est amorcé maintenant une espèce de polarisation parce qu'à un moment donné, tu es dans le camp de ce bord-là, tu es de ce bord-là, puis il commence à avoir un peu, pas en temps des déchirements, mais à tout le moins des débats, une polarisation là, qui s'opère, qu'on voit depuis quelques années, mais qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, par exemple, tellement. On voit aussi dans ce grand mouvement vert l'émergence récente d'une panoplie d'organisations liées au développement durable. Que ce soit des départements de développement durable de Sainte-Claire-Lavalin, à des nuances de verre d'un hybride surprenant, à des firmes d'éco-conseil qui vont, tu sais, il y a des petites firmes coop d'éco-conseil, il y a des méga firmes d'éco-conseil, il y a de toutes sortes de choses qui, eux, vont travailler auprès des grands capitaux, qui vont faire du moins pire, mais bon. Il y a aussi une émergence d'ONG environnementales, ça, des ENGO. Qui sont pilotés par des corporations. On a vu ça aussi émerger des grosses corporations qui, via des fondations, vont financer l'émergence de certaines ONG environnementales qui sont difficiles à l'œil naïf de démêler, mais qu'est-ce que cette organisation? Il faut remonter les filières de financement. Il y a une certaine émergence de ce type de choses qu'il faut faire en sorte qu'il faut un peu fouiller pour savoir à qui on parle. Il y a aussi comme caractéristique du mouvement l'urgence. L'urgence totale. L'urgence, c'est pas le meilleur conseiller pour une vision à long terme. Une urgence qui nuit aux grandes réflexions, aux grandes idées, au travail de fond, à la recherche d'alliances, qui fait en sorte qu'on n'est pas nécessairement en train d'optimiser nos forces, de chercher une convergence, mais on cherche à agir maintenant parce qu'on dit on peut pas se tanner, puis ça suffit par l'âge, puis blablabla. Parce qu'il y a un sentiment d'urgence qui est très, très, très justifiable, qui est certes légitime, mais qui n'amène pas nécessairement un plus grand impact. Il y a aussi des cultures organisationnelles qui sont en pleine mutation. Les mouvements qui ont grandi dans les années 80, qui ont une structure présidence, et un fonctionnement souvent très, très, très hiérarchique, mais c'est pas le cas parce que c'est une présidence. Mais il y a un choc culturel par rapport aux vagues plus issues de l'altermondialisme et tout ça, qui ont une culture organisationnelle du consensus, des cultures beaucoup plus horizontales. Il y a une espèce de choc de culture organisationnelle qui est en train de s'opérer là, dans différents groupes, c'est fort intéressant. Nous vivons nous-mêmes. Il y a aussi un sous-financement, voire un non-financement, qui rend les groupes très, très, très vulnérables aux humeurs politiques du financement par projet. Parce que le financement à la mission pour les groupes régionaux est un mythe, n'existe pas. Il y a quelques groupes nationaux qui auront un financement à la mission, mais c'est très, très, très minime comme financement. Donc, ça aussi, ça a un impact, non sur les volontés, mais à tout le moins sur ce qui s'incarne dans le concret de ce que les groupes arrivent à accomplir. Et je vais conclure. Au Québec aussi, il y a comme caractéristique un certain isolement relatif, là, mais moi je constate qu'en termes de littérature et de brassage d'idées, il y a beaucoup d'idées, par exemple, qui vont concerner la réalité nord-américaine, qui vont circuler plus en anglais, qui vont prendre beaucoup de temps à percoler jusqu'aux groupes régionaux du Québec qui n'ont pas tendance à lire parce que c'est en anglais, pas parce qu'ils sont pas capables, si on le voit, ils liront pas. Puis aussi la littérature francophone qui va venir de l'Europe, mais qui ne traduit pas nécessairement d'une réalité éditoriale comparable, certes à certains égards, mais pas à tous les égards. Donc, il y a de ce côté-là une espèce d'isolement qui se crée, qui est un peu dommage. Puis, dans les grands défis, afin de conclure, il y a la complexité des problématiques qui se multiplient. Puis là, on essaie de conjuguer les enjeux environnementaux, puis c'est tout ça, puis le reste, c'est compliqué, vous le savez. Puis il y a aussi l'idée qu'il faut sortir de l'idée qu'on va se donner un plan puis que ça va marcher, qu'on a juste à se donner un plan. Il y a l'espèce d'acceptation qu'à l'échelle de l'humanité, c'est une job exploratoire d'essayer de survivre en ce moment. C'est sans aucune garantie, puis il faut qu'on essaye de voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis que si on constate que ce qu'on fait maintenant ne marche pas, il faut essayer quelque chose sans savoir si ça va marcher. Puis ça, c'est un espèce d'autre mode là, de penser puis de goût du risque qu'il faudra bien cultiver. Voilà.
Bon.